Livre 7, lettre 17, lecture publique. Plina Célère. Chacun a ses motifs pour faire des lectures publiques. Les miennes sont, comme je l'ai dit souvent, que si j'ai commis quelques fautes, il en échappe toujours, on m'en avertit. Aussi suis-je d'autant plus surpris de ce que vous me demandez. Quelques personnes, dites-vous, trouvent mauvais que je lise en public mes plaidoyers. Les ouvrages de ce genre, suivant-elles, doivent donc seuls n'être pas corrigés? Je demanderai volontiers à mes censeurs pourquoi ils conviennent, s'ils en conviennent pourtant, qu'on doit lire un ouvrage historique dans lequel on ne cherche point l'éclat, mais l'exactitude et la vérité. Une tragédie qui demande au lieu d'un auditoire une scène et des acteurs, des vers lyriques qui veulent non pas un lecteur, mais un cœur et une lyre. L'usage, dira-t-on, a autorisé la lecture de ces sortes de compositions. Faut-il donc condamner celui qui l'a introduit? Les Grecs et quelques Romains n'ont-ils pas lu aussi publiquement leur plaidoyer? Mais il est inutile de lire ce que vous avez débité en public. Oui, si vous lisiez les mêmes choses aux mêmes personnes, si vous lisiez en sortant de l'audience, mais si vous ajoutez, si vous changez beaucoup de passages, si vos auditeurs ne vous ont point entendu ou ne vous ont entendu qu'à une époque déjà éloignée, pourquoi y aurait-il moins de motifs pour lire ce que vous avez prononcé que pour le donner au public? Mais il est difficile qu'un plaidoyer fasse plaisir quand il est lu. C'est une besogne de plus pour le lecteur et non une raison pour ne pas le lire. Pour moi, je ne songe pas à être loué quand je lis, mais à l'être quand je suis lu. Je ne fis donc aucune espèce de critique. D'abord, je retouche moi-même ce que j'ai composé. Ensuite, je le lis à deux ou trois personnes. Puis je le donne à d'autres pour y faire leurs remarques et des remarques. Si elle me laisse quelques scrupules, je les pèse avec un ou deux de mes amis. Enfin, je lis devant une assemblée plus nombreuse, et c'est là, je vous l'assure, que je suis le plus ardent à corriger. Mon attention est alors d'autant plus éveillée que mon inquiétude est plus grande. Le respect, la retenue, la crainte sont d'excellents censeurs. Qu'on y songe, en effet. N'est-on pas moins troublé si l'on doit parler devant un homme seul, quelque savant qu'il soit, que si l'on doit discourir devant plusieurs, fût-il ignorant? N'est-ce pas, quand on se lève pour plaider, qu'on se défie le plus de soi, qu'alors on voudrait avoir changé, je ne dis pas une partie de son discours, mais son discours tout entier, surtout si le théâtre est vaste et le cercle nombreux? Les juges les plus vifs et les plus grossiers semblent alors redoutables. Si l'on pense que le début n'a pas réussi, ne se sent-on point découragé, consterné? Le motif, selon moi, c'est qu'il y a dans le nombre même je ne sais quelle opinion imposante et générale. Chacun des auditeurs peut avoir peu de goût. Réunis, ils en ont beaucoup. Aussi Pomponius Secundus, le fameux auteur tragique, disait-il ordinairement, lorsqu'il tenait à conserver quelque endroit de ses pièces qu'un intime ami lui conseillait de supprimer, « J'en appelle au peuple, et d'après le silence ou l'approbation du peuple, il suivait l'avis de son ami ou le sien, tant il accordait au jugement de la multitude. » Avait-il tort ou raison? Peu importe. Ne te lis pas au peuple. Je lis dans une assemblée de personnes choisies dont je puisse consulter les visages, dont je suive les avis, que j'estime séparés en même temps que je les redoute réunis. Ce que Marcus Cicéron disait du travail écrit, je le dis de la crainte. La crainte est le plus sévère des censeurs. Cette seule pensée que nous devons lire en public corrige nos ouvrages. Paraître devant une assemblée, pâlir, trembler, regarder autour de soi, tout contribue à nous réformer. Je ne me retourne donc pas d'une coutume dont je recueille tant d'avantages. Et loin de m'émouvoir de la malveillance de mes censeurs, Je vous prie de m'indiquer quelques nouveaux secrets pour ajouter encore à la correction de mes écrits, car je ne suis jamais satisfait de mon travail. Je songe combien il est périlleux de livrer un ouvrage aux mains du public, et je ne puis me persuader que l'on ne doive pas retoucher souvent, et en réunissant beaucoup d'avis, ce qui tend à plaire toujours et à tout le monde. Adieu.